VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Bagassi Koura et Henri Francisque avec vous ce matin au sommaire en ce vendredi 6 février.
On connaît l'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ce sera Ghana-Côte d'Ivoire comme en 1992 au Sénégal.
Des détails émergent concernant la contre-attaque de Boko Haram sur la ville camerounaise de Fotokol.
Quand ils ont entré dans la ville, on n'a pas tiré, ils n'ont pas tiré, ils ont dit qu'il ne faut pas qu'on tire, ils ont d'abord les gens de la mosquée.
Au Burkina Faso, le Premier ministre Isaac Zida a pu sauver son fauteuil en acceptant les exigences de la garde présidentielle.
Visiblement, le gouvernement de transition a reculé face à ce corps-là qui est assez puissant, qui pendant longtemps a été le socle du régime de Blaise Compaoré.
Les représentants des deux factions armées en République centrafricaine ont signé un cessez-le-feu inconditionnel lors du pourparlers de paix de Nairobi. Et dans moins de 10 minutes, le journal de la CAN avec Nicolas Pinet. N'oubliez pas, la Minute Éco, ce sera en fin d'édition. Mais d'abord, le journal.
Les élections nigérianes se dérouleront le 14 février, comme prévu, malgré l'intensification de la lutte contre les islamistes de Boko Haram. C'est ce qu'a fait savoir le Conseil d'État nigérian. Des précisions avec Eddie Isango.
Organe consultatif présidé par les présidents Goodluck Jonathan et comptant des généraux, d'anciens présidents et des législateurs parmi ses membres, le Conseil s'est prononcé sur la question à l'issue de sa réunion hier à Abuja. Certains Nigérians appellent à un report du scrutin du fait de la lenteur de la distribution des cartes d'électeurs et de la violence dans le nord-est où les combats se poursuivent contre les islamistes de Boko Haram. Ces questions ont été débattues à Abuja, mais le Conseil a aussi écouté les observations de la Commission électorale nationale indépendante a fait savoir les gouverneurs de l'État d'Imo, Rochas Okorocha, l'un des participants. La Commission, à qui revient les derniers mots, a indiqué qu'elle est vraiment prête à conduire les scrutins du 14 février, a ajouté M. Okorocha. Avant la réunion du Conseil d'État d'hier, des manifestants et des militants de l'Alliance progressiste, principal parti d'opposition, avaient exigé que les législatives et la présidentielle se tiennent comme prévu.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a invité les pays voisins du Nigeria à intensifier leur coopération militaire et la coordination de leurs efforts contre le groupe Boko Haram. C'est ce que rapporte l'AFP dans une déclaration unanime adoptée jeudi. Les 15 pays membres du Conseil de sécurité exhortent les pays de la région à renforcer les opérations et la coopération militaire régionale afin de lutter contre Boko Haram plus efficacement et immédiatement. Le Conseil rend hommage à l'aide apportée rapidement par l'armée tchadienne dans la lutte contre Boko Haram au Nigeria.
Les représentants des deux factions armées en République centrafricaine ont signé un cessez-le-feu inconditionnel lors des pourparlers de paix dans la capitale kényane, Nairobi. Le médiateur kényan Kenneth Marende a déclaré aux journalistes jeudi que les groupes armés Seleka et Antibalaka s'étaient engagés à cesser de recruter et d'utiliser les enfants soldats et à ne plus attaquer les civils. Le gouvernement centrafricain n'a pas pris part à ces pourparlers. Pendant ce temps, l'ONU demande plus de 1000 casques bleus supplémentaires pour aider à stabiliser les régions au-delà de la capitale Bangui.
Au Burkina Faso, le Premier ministre Isaac Zida a pu sauver son fauteuil à l'issue d'âpres négociations. La garde présidentielle burkinabé a renoncé jeudi à réclamer la démission d'Isaac Zida à la tête du gouvernement. En revanche, le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, aurait obtenu la nomination de deux des leurs à des postes clés. Le compromis est destiné à clore la crise ouverte mercredi, la plus grave à laquelle ont été confrontées les autorités de transition mises en place après la chute de Blaise Compaoré, chassé du pouvoir à la fin octobre.
République démocratique du Congo, les autorités ne remplaceront pas les deux généraux accusés de violation des droits de l'homme. Jugés indésirables par la mission onusienne en RDC, ils ont été chargés de lutter contre les rebelles hutus rwandais des FDLR. La MONUSCO menace donc de retirer son soutien à l'opération, mais pour le gouvernement congolais, il faut faire l'objet d'une condamnation par la justice militaire pour être écarté du commandement. C'est ce qu'indique l'AFP.
Bilan des manifestations contre la loi électorale toujours en RDC le mois dernier. 27 personnes ont été tuées, estime le gouvernement. On compte 23 morts à Kinshasa seulement et 4 à Goma, dont 3 enfants. Deux policiers figurent parmi les victimes. En revanche, la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme et Human Rights Watch font état d'une quarantaine de morts.
Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme au sujet de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Les déplacements dans les trois pays les plus touchés seront difficiles avec l'arrivée des pluies dans 2 mois, ce qui compliquera la lutte contre le virus. Le point avec Timothée Donangmaï.
Notant les progrès obtenus par les équipes sanitaires sur le terrain, l'OMS avertit que l'épidémie est loin d'être contenue et continue d'être une grave menace. David Nabarro, l'émissaire spécial du secrétaire général de l'ONU pour la lutte contre l'Ebola, a appelé les populations des trois pays concernés à demeurer sur leur garde. Malgré la diminution du nombre total des cas, beaucoup reste à faire pour parvenir à l'objectif zéro cas, a-t-il dit, faisant remarquer que l'OMS a dénombré 124 nouveaux cas confirmés la semaine passée, soit 25 de plus que la semaine précédente.
There will always be volatility.
La situation sera toujours volatile. Les chiffres augmenteront et diminueront, mais plus nous serons à même de détecter les cas et tracer les contacts, mieux nos résultats seront, a expliqué David Nabarro. Pour mener à bien cette mission, les Nations Unies ont besoin $1 milliard et tout de suite, a souligné le docteur Nabarro, ajoutant que les agences onusiennes sont anxieuses d'obtenir ces fonds à temps, question d'éviter une interruption dans la lutte contre l'Ebola.
En Angola, le Front de libération de l'enclave de Cabinda a annoncé son intention de déposer les armes, mais certains de ses combattants privilégient encore la lutte armée sur Ben Dorsila.
Dans une lettre datée du 4 février, citée par l'AFP, le chef historique du Front, Nzita Thiago, qui réside à Paris, dit agir dans l'intérêt de la paix, de la réconciliation et de la justice. Il lance un appel au président angolais José Eduardo dos Santos pour qu'il établisse une commission de travail sur les problèmes de l'enclave de Cabinda. Ce n'est pas la première tentative du genre de la part du mouvement séparatiste. Aucun suivi cependant du côté du gouvernement qui maintient une force militaire à Cabinda. Par ailleurs, une branche du FLEC, les forces armées de Cabinda, demeure active sur le terrain et pourrait ignorer la décision de Nzita Thiago. Ce groupe a mené des attaques sporadiques contre les soldats angolais, les plus récentes remontant au début de cette année. L'enclave de Cabinda, située entre les deux Congos, fournit à l'Angola 60% de son pétrole. Mais, comme le rappelle l'agence France Presse, la majorité de ses 400 000 habitants vit dans la pauvreté.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Multiples raids de l'aviation jordanienne contre l'État islamique hier après la promesse du roi Abdallah de Jordanie de frapper fort le groupe militant suite au meurtre d'un pilote jordanien capturé par les djihadistes en Syrie en décembre. Pas d'informations sur les cibles visées, mais le ministre jordanien de la Défense a indiqué que c'était seulement le début de la campagne de représailles.
Les chefs d'État allemands et français sont arrivés à Kiev en Ukraine hier avec une nouvelle proposition de règlement du conflit dans ce pays pour tenter de mettre fin à la recrudescence des combats près de la frontière russe en Alberson.
La chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande se sont réunis à Kiev avec le président ukrainien Petro Porochenko. Aucun détail n'a filtré sur cette rencontre. Les deux dirigeants européens se sont ensuite envolés pour Moscou, où ils devraient présenter leur proposition de paix au président russe Vladimir Poutine aujourd'hui. Hier à Kiev, le secrétaire d'État américain John Kerry a accusé les séparatistes pro-russes et le Kremlin d'être conjointement responsables de l'escalade de la violence dans l'est de l'Ukraine, assurant que le président Poutine pourrait prendre les décisions qui permettraient de mettre fin à ce conflit. Après des pourparlers avec le président ukrainien, John Kerry a indiqué « Nous voulons une résolution diplomatique ». Mais nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les chars qui franchissent la frontière russe pour entrer en Ukraine. À de nombreuses reprises, Moscou a nié toute implication directe dans les combats qui ont fait plus de 5400 morts en 10 mois.
Crise de la dette grecque, pas de progrès hier lors des consultations à Berlin entre les ministres des Finances de la Grèce et de l'Allemagne. Le gouvernement allemand maintient son opposition à une restructuration de la dette grecque. La veille, la Banque Centrale Européenne avait annoncé son intention de ne plus accepter des bons du Trésor grec comme garantie dans ses prêts à des banques commerciales.
Au moins 2 compagnies charter vont effectuer la liaison New York-Cuba à partir de mars. L'AFP qui rapporte l'information affirme que Cuba Travel Service et Marazolo proposeront toutes les deux un vol hebdomadaire le mardi entre les aéroports John Kennedy International à New York et José Martí à La Havane. En novembre, le président Barack Obama et le dirigeant cubain Raúl Castro avaient fait une annonce surprise de leur plan pour normaliser les relations. Et tout de suite, le journal de la Coupe d'Afrique des Nations avec Nicolas Pinon.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de la CAN sur VOA Afrique. Qualification méritée pour le Ghana et honte sur les supporters équato-guinéens. Le Ghana rejoint donc la Côte d'Ivoire pour une finale 100% ouest-africaine dimanche à Bata. Les Black Stars n'ont pas tremblé et su maîtriser leurs nerfs durant une partie sous haute tension. Jordan Ayew ouvre le score sur pénalty juste avant la mi-temps. Et Wakaso donne un autre avantage aux Ghanéens qui regagnent les vestiaires avec 2 buts d'avance. À ce moment, les premiers projectiles volent des tribunes de la part des supporters équato-guinéens mécontents. Le match reprend et André Ayew, l'autre frère, inscrit lui aussi son but. 3-0 pour les Black Stars, c'en est trop pour les supporters équato-guinéens. Les projectiles s'abattent à nouveau sur la pelouse et des incidents éclatent avec les supporters ghanéens qui ont fini sur la pelouse, tout simplement invraisemblable. Le match a pu reprendre après 30 minutes d'interruption, mais les choses en restent là. Victoire 3-0 du Ghana. Retour sur cette qualification avec Jules Valentin Gouet.
Bonjour. Après sa très controversée victoire face à la Tunisie en quart de finale de la CAN, les allants nationaux de Guinée équatoriale étaient particulièrement attendus pour sa prochaine sortie en demi-finale contre le Ghana. Non par la prestation de l'équipe qui, contre toute attente, s'est incontestablement mise au niveau de la compétition, mais la polémique tournait surtout autour de l'arbitrage jugé partial, au point d'évoquer la thèse du complot ou encore de la pression attendue du public. Sur le terrain, la Guinée a fait illusion une demi-heure durant, pour ensuite céder brutalement en fin de première mi-temps sur un pénalty consécutif à une sortie mal négociée du courageux portier Philippe Ovono et une contre-attaque assassine conclue par le remiant Moubarak Wakaso. La messe était donc dite, le troisième but d'Ayew au milieu de la seconde mi-temps sera anecdotique. Si l'arbitrage a été parfait, c'est dans les tribunes que l'inacceptable est arrivé cette fois-ci. Avec l'envahissement dangereux de la piste et la réaction d'un public déçu à 10 minutes de la fin de la rencontre. Cette scène d'un autre âge rétrograde considérablement la note de la Guinée, jusque-là encensée pour la réussite de l'organisation. À elle de redresser la barre dans les matchs suivants, afin de regagner la reconnaissance de tout un continent qui lui accorde le mérite d'avoir sauvé son honneur menacé. À bientôt.
Aucun match à suivre ce vendredi, mais dès samedi, ce sera la petite finale, le match pour la troisième place, qui opposera donc les demi-finalistes malheureux, les Équato-Guinéens face aux Congolais. Comment l'équipe de la RDC a pu se remobiliser avant ce match? La réponse avec ce reportage sur place de Thierry Kambundi.
Déçus par leur élimination en demi-finale, les Léopards de la République démocratique du Congo courent désormais derrière la médaille de bronze. Mais il va falloir que Jean-Florent Ibenge, leur sélectionneur, trouve des mots justes pour remobiliser ses troupes avant la petite finale de ce samedi.
Déjà, ce sont des compétiteurs, donc chaque fois qu'on rentre sur le terrain, c'est pour gagner. Déjà là, on va les mobiliser, on est abattu après une défaite. Et c'est ce qui m'intéresse, ce qui me fait plaisir. Parce que être déçu après avoir été battu contre la Côte d'Ivoire, ça montre quand même que cette équipe a de la volonté, elle n'a pas froid aux yeux.
Avant de quitter Bata pour Malabo ce jeudi 5 février, l'attaquant congolais Cédric Mabouati nous a rappelé l'importance de ce match qui devrait, selon lui, sanctionner une CAN réussie.
Je sais que tout le monde, toute l'équipe, on est bâti, mais c'est le foot. Hein. Maintenant, on doit penser au match samedi. C'est un match très important pour nous aussi, pour arriver même à la troisième position, à prendre la médaille. Et on va essayer de faire ça bien. Moralement, on est touché, mais tous les matchs, c'est très important à jouer. C'est un match de la CAN. Aller gagner.
Les Léopards seront tout de même privés de Dieu merci Mbokani, leur meilleur buteur de cette CAN avec 3 réalisations, blessé en demi-finale contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Bata, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Merci Thierry, et la grande finale ce sera dimanche, finale de la 30e Coupe d'Afrique des Nations entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ainsi s'achève ce journal de la CAN. Prochain point sur la compétition, ce soir dans Le Monde Aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagassi Courant, votre compagnie, place maintenant au dossier du jour. La contre-attaque de Boko Haram sur la ville camerounaise de Fotokol a été meurtrière. Elle est intervenue au lendemain de l'offensive tchadienne pour déloger les djihadistes de la ville de Gambourou, une ville voisine au Nigeria. L'armée tchadienne dit avoir tué au moins 200 combattants islamistes. Une bonne partie de la population a fui dans la brousse. Ceux qui sont restés, eux, vivent dans la peur et la terreur. Des cadavres sont encore visibles dans plusieurs endroits de la ville. Pour un témoignage, Idriss Fall a joint à Fotokol un policier à la retraite. Il s'appelle Mahamat Geime.
Il y a presque 800 personnes. Ils sont morts. Presque 800 personnes, 800.
Pas 80, vous dites 800 morts.
Il y a 800, il y a beaucoup. Bon, il y a 100 citoyens qui sont morts en ville. Il y a 13 armées du Tchad. Il y a 5 armées camerounaises.
Est-ce qu'on les a enterrés?
Non, pas encore, pas encore. Ils ne sont pas enterrés. C'est à côté de la ville de Fotokol. C'est à peine 2 km, 1 km et demi comme ça.
Et les corps sont dans les rues?
Ouais, c'est pas enterré, c'est pas enterré.
Quelle est l'atmosphère aujourd'hui à Fotokol?
La vie est dure. Les gens sont rentrés en brousse, mais ils sont rentrés encore. Ils ont replié. Et jusque là, il y a certains qui dorment en brousse.
La grande mosquée a été brûlée?
Ouais, il y a des mosquées qui... On a tué les gens là, dans les mosquées. Aujourd'hui, c'est à peine heure de la prière, à 5h39. Bon, ils sont entrés, ils ont trouvé des gens dans les mosquées. On les a arrosés après la prière. Dès qu'ils veulent sortir, on les a arrosés.
Et on nous dit qu'il y a des personnes qui ont été égorgées.
Bon, quand ils sont entrés en ville, on n'a pas tiré. Ils n'ont pas tiré. Ils ont dit qu'il ne faut pas qu'on tire. Ils ont d'abord les gens de la mosquée. Après les gens de la mosquée, on va commencer à tirer les tirs, c'est ce qu'ils ont fait.
Et maintenant, est-ce que les soldats camerounais sont dans la ville à Fotokol?
Tout le monde est sorti. Il y a le sous-préfet qui est parti en réunion à Maroua.
Voilà, c'était Mahamat Geime, policier à la retraite à Fotokol, dans l'extrême nord du Cameroun. Et pendant ce temps, à Yaoundé, la capitale camerounaise abrite depuis hier une réunion sur le déploiement d'une force africaine de 7500 hommes pour lutter contre Boko Haram. Pendant 3 jours, des dizaines d'experts africains et occidentaux vont donc discuter des modalités de la mise en place de cette force. Quelle sera son efficacité face à la puissance de feu des djihadistes nigériens? Idriss Fall a joint Gibaï Gatama, il est directeur du journal L'Œil du Sahel.
Si ces 7500 hommes sont des combattants qui vont passer à l'offensive et qui ne vont pas rester sur la défensive comme l'ont été l'armée nigériane et l'armée camerounaise pendant un certain temps, je pense qu'on peut évoluer sur le plan militaire. Si ils ont la même ténacité que les militaires tchadiens, on peut avoir des résultats, mais sinon, je crains qu'on ait des forces qui soient stationnées et qui n'apportent pas de grands résultats.
En fait, quels sont les pays qui pourraient contribuer et pouvoir aider à changer la donne? Parce qu'on a vu ce qui s'est passé au Mali.
Les pays sont quasiment en difficulté sur le plan militaire. C'est un problème de mise à niveau des armées de la sous-région qui ont été bâties beaucoup plus pour tenir en haleine la population que pour faire une guerre, et encore mieux pour résister à une guerre asymétrique comme l'impose Boko Haram. Je pense que dans la sous-région, en dehors des armées camerounaises, italiennes et nigériennes, je sens remettre en doute la valeur des armées de tel ou tel autre pays.
Tout ceci, ça coûte de l'argent. L'argent viendrait d'où?
Si la communauté internationale n'aide pas, il va de soi que cette force sera sur le papier et ne va pas se répercuter sur le terrain. Mais dans quelles conditions cette force intervient? Il faut bien voir que là, il y a une poussée, certes, de l'armée tchadienne dans le Borno State, mais il faut que cette armée tchadienne soit épaulée par d'autres armées qui ont également la même baraka, qui disposent de la même motivation, qui disposent des matériels adéquats, qui soient soutenus par un renseignement aérien et terrestre. Et ça va prendre du temps pour qu'on puisse mettre tout ça en place. D'ici à 2 mois, l'armée tchadienne devra encore faire le travail à l'intérieur du Nigeria et que l'armée camerounaise puisse s'assurer que la pression de l'armée tchadienne à l'intérieur du Nigeria n'oblige pas les combattants de Boko Haram à s'infiltrer au Cameroun.
Mais on a vu ce qui s'est passé donc à Fotokol.
Bien sûr, l'armée tchadienne a avancé beaucoup trop vite. beaucoup trop vite et les arrières n'avaient pas été sécurisées. L'armée tchadienne a traversé Gambarou pour aller en Gala et elle est passée. Alors que les combattants de Boko Haram s'étaient planqués, les Camerounais ont levé leur dispositif sur le pont du fleuve El Bayit qui sépare les deux pays et qui était jusque sur le verrou stratégique de l'armée camerounaise contre Boko Haram. À partir du moment où ce dispositif a été levé et que les gens se sont dit, puisque les Tchadiens avancent derrière eux, il n'y a rien, il n'y a plus que des ratissages à faire, c'est arrivé ainsi.
Voilà, c'était Gibaï Gatama, directeur du journal L'œil du Sahel.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Au Burkina Faso, dénouement hier de la crise provoquée par la grogne des soldats du RSP, le régiment de sécurité présidentielle. Ce corps d'élite réclamait, entre autres, le départ du premier ministre Isaac Zida, qui avait promis la dissolution du RSP. Au finish, pas de départ du premier ministre ou de dissolution du RSP. Mais la question reste entière pour une analyse de cette première crise post-Compaoré. Timothée Donangmaya joint à Ouagadougou. Dani Aïda, il est expert en gouvernance pour Africa Label, firme de conseil en développement international.
C'est vrai, le premier ministre avait sur quand même la revendication de la société civile notamment, fait la promesse comme quoi le RSP allait être dissous. Les militaires membres de ce corps réclamaient le départ du premier ministre. Mais ils avaient d'autres réclamations, notamment que les récentes nominations en leur et notamment, il y a un certain nombre d'officiers supérieurs de RSP qui ont été nommés dans d'autres corps, ce qui était considéré dans ce corps-là comme étant le début du démantèlement. Et donc, il au moins que ces nominations soient revues, donc ce qui est quand même un recul de la part de l'exécutif dans ce problème. Donc, ici, à Ouaga, beaucoup d'observateurs considèrent que ce précédent qui risque d'être dangereux parce que visiblement, le gouvernement de transition a reculé face à ce corps-là qui est assez puissant, qui pendant longtemps a été le socle du régime de Blaise Compaoré. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent et ce dénouement semble être juste provisoire à mon avis.
Et certains d'ailleurs voient derrière cette situation des agissements de l'ancien régime. Dans quelle mesure cela risque de compromettre le processus en cours au Burkina?
Le processus a commencé juste il y a 3 mois. C'est le premier couac qui est assez sérieux. Évidemment, un régime aussi puissant que celui de Blaise Compaoré ne pouvait pas disparaître du jour au lendemain comme cela. Blaise Compaoré, quand même, il était capitaine quand il est arrivé au pouvoir. Et on sait également que le pouvoir était bâti quand même comme beaucoup d'autres régimes en Afrique sur les forces armées qui tenaient une place assez importante. Et le RSP, quand même, c'était un corps d'élite. Il y avait beaucoup de privilèges qui s'occupaient de beaucoup d'affaires. Et il faut admettre que décider comme ça de s'en prendre ce corps, évidemment, était un risque assez évident. Maintenant que la question est sur la table, la société civile insiste et insiste que le RSP soit dissous. Les politiques se concertent, on a les élections en vue et je crois que définitivement il n'y a plus de doute pour les observateurs et pour les acteurs et les citoyens burkinabés que le RSP constitue le nœud du problème pour la démocratie réelle et pour une gouvernance civile au Burkina Faso. Et il faut quand même d'un jour à l'autre qu'une solution durable soit trouvée à ce problème.
Voilà, c'était Dani Aïda, expert en gouvernance pour Africa Label, firme de conseil en développement international. Il a été joint à Ouagadougou.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
La majorité des Africains continuent d'acheter leur nourriture dans des marchés en plein air, chaotiques qui feraient frémir nombre de gens soucieux des pratiques hygiéniques. Mais une nouvelle étude de l'International Livestock Research Institute, basée à Nairobi, devrait les rassurer. Les explications de Michel Joseph.
L'International Livestock Research Institute, en français l'Institut international de recherche sur le bétail, a fait une découverte surprenante. Nombre de marchandises trouvées sur ces marchés informels sont tout aussi sûres ou fraîches que les produits écoulés par les supermarchés de style occidental qui se répandent à travers le continent africain. Jusqu'à 95% de la nourriture vendue en Afrique transite par des marchés en plein air. Mais un nombre croissant de supermarchés leur font concurrence, attirant les acheteurs dans leurs belles allées brillamment éclairées pour leurs produits alimentaires sous emballage en plastique. L'Institut international de recherche sur l'élevage s'est penché sur des marchés informels dans 8 pays africains pour découvrir que, s'agissant de la sécurité alimentaire et de la fraîcheur des produits, les apparences sont plutôt trompeuses.
Juste parce qu'un produit porte une étiquette ou qu'il est présenté dans un environnement lumineux, cela ne signifie pas nécessairement qu'on peut l'acheter en toute sécurité.
Elle évoque des cas à Nairobi où des vendeurs informels ont insisté sur le fait qu'ils prennent des précautions sanitaires avant de vendre leurs marchandises.
Je dois m'assurer que l'eau bouillie et la personne qui procède à la traite se lavent les mains avant de le faire.
Les vendeurs des marchés en plein air prennent fréquemment d'autres mesures.
Quand je reçois le lait, je l'ai bouilli d'abord pour m'assurer de sa fraîcheur. On voit bien qu'il n'y a pas de supermarché, donc. Sans les marchés informels, où est-ce que les gens pourraient se ravitailler?
Côté acheteurs, on fait remarquer que les prix des denrées vendues dans les marchés en plein air sont inférieurs à ceux pratiqués par les supermarchés. Et puis, les marchandises sont plus fraîches. À noter qu'aux États-Unis, les marchés en plein air ont repris leur essor au cours des 20 dernières années, un nombre croissant d'Américains privilégiant les produits locaux jugés plus naturels.
La Minute Éco, l'actualité économique en Afrique et ailleurs, avec nous ce matin, Jean-Roger Bion. Bonjour Jean-Roger.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
Une fondation pour réinventer les liens économiques entre l'Afrique et la France.
L'architecte de cette fondation est le franco-béninois Lionel Zinsou, qui ambitionne de dépoussiérer les relations économiques entre la France et le continent africain. La fondation sera portée ce vendredi sur les fonts baptismaux. Elle se veut un espace de rencontre et d'échange entre acteurs privés et publics en Afrique et en France, selon son concepteur.
Le FMI offre 100 millions de dollars d'allègement de dette aux pays frappés par Ebola.
Les bénéficiaires de cet allègement sont la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, les trois pays d'Afrique de l'Ouest affectés par l'épidémie d'Ebola, afin de réduire le fardeau de leur dette vis-à-vis de l'institution. Le FMI a par ailleurs ajouté qu'il pourrait approuver un prêt à taux zéro de 160 millions de dollars à ces pays qui s'ajouteraient ainsi aux 130 millions déjà déboursés en septembre dernier.
Ça correspond à peu près à 40% des besoins budgétaires du Sierra Leone, du Libéria et de la Guinée, mais on espère que d'autres pays, d'autres donateurs vont également se rallier à cet effort que le Fonds monétaire international a décidé aujourd'hui.
Christine Lagarde, directrice générale du FMI.
La zone euro en déflation en 2015, selon la Commission européenne.
Bruxelles s'attend à une baisse des prix de 0,1% en moyenne sur l'année. La tendance devrait s'inverser en 2016 grâce à des mesures de la Banque centrale européenne pour injecter des liquidités dans l'économie. La déflation est caractérisée par une baisse des prix sur une période prolongée qui entraîne des risques pour la croissance en pesant sur les salaires et la consommation.
Merci Jean-Roger. C'était la Minute Éco.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes, soca, zouk, reggae, salsa et vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-92-85-40. Participez en direct, ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA à Afrique. Et j'en profite pour souhaiter joyeux anniversaire à Madame Maïga Sanata Diara à Amdalaï Bamako. Peace Africa!
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Anne Albertson était à la production et John Ellison à la console technique. Un grand merci à toute la rédaction de VOA Afrique. C'était Bagassi Koura au micro. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.
cœur de l'info sur VOA Afrique. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Bagassi Koura et Henri Francisque avec vous ce matin au sommaire en ce vendredi 6 février.
On connaît l'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ce sera Ghana-Côte d'Ivoire comme en 1992 au Sénégal.
Des détails émergent concernant la contre-attaque de Boko Haram sur la ville camerounaise de Fotokol.
Quand ils ont entré en ville, on n'a pas tiré, ils n'ont pas tiré, ils ont dit qu'il ne faut pas qu'on tire, ils ont d'abord les gens de la mosquée.
Au Burkina Faso, le Premier ministre Isaac Zida a pu sauver son fauteuil en acceptant les exigences de la garde présidentielle.
Visiblement, le gouvernement de transition a reculé face à ce corps-là qui est assez puissant, qui pendant longtemps a été le socle du régime de Blaise Compaoré.
Les représentants des deux factions armées en République centrafricaine ont signé un cessez-le-feu inconditionnel lors du pourparlers de paix de Nairobi. Et dans moins de 10 minutes, le journal de la CAN avec Nicolas Pinet. N'oubliez pas, la Minute Éco, ce sera en fin d'édition. Mais d'abord, le journal.
Les élections nigérianes se dérouleront le 14 février comme prévu, malgré l'intensification de la lutte contre les islamistes de Boko Haram. C'est ce qu'a fait savoir le Conseil d'État nigérian. Des précisions avec Eddy Issango.
Organe consultatif présidé par les présidents Goodluck Jonathan et comptant des généraux, d'anciens présidents et des législateurs parmi ses membres, les conseils s'est prononcé sur la question à l'issue de sa réunion hier à Abuja. Certains Nigérians appellent à un report du scrutin du fait de la lenteur de la distribution des cartes d'électeurs et de la violence dans le nord-est où les combats se poursuivent contre les islamistes de Boko Haram. Ces questions ont été débattues à Abuja, mais le conseil a aussi écouté les observations de la Commission électorale nationale indépendante a fait savoir les gouverneurs de l'État d'Imo, Rochas Okorocha, l'un des participants. La Commission, à qui revient les derniers mots, a indiqué qu'elle est vraiment prête à conduire les scrutins du 14 février, a ajouté M. Okorocha. Avant la réunion du Conseil d'État d'hier, des manifestants et des militants de l'Alliance progressiste, principal parti d'opposition, avaient exigé que les législatives et la présidentielle se tiennent comme prévu.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a invité les pays voisins du Nigeria à intensifier leur coopération militaire et la coordination de leurs efforts contre le groupe Boko Haram. C'est ce que rapporte l'AFP dans une déclaration unanime adoptée jeudi. Les 15 pays membres du Conseil de sécurité exhortent les pays de la région à renforcer les opérations et la coopération militaire régionale afin de lutter contre Boko Haram plus efficacement et immédiatement. Le Conseil rend hommage à l'aide apportée rapidement par l'armée tchadienne dans la lutte contre Boko Haram au Nigeria.
Les représentants des deux factions armées en République centrafricaine ont signé un cessez-le-feu inconditionnel lors des pourparlers de paix dans la capitale kényane, Nairobi. Le médiateur kényan Kenneth Marende a déclaré aux journalistes jeudi que les groupes armés Seleka et Antibalaka s'étaient engagés à cesser de recruter et d'utiliser des enfants soldats et à ne plus attaquer les civils. Le gouvernement centrafricain n'a pas pris part à ces pourparlers. Pendant ce temps, l'ONU demande plus de 1000 casques bleus supplémentaires pour aider à stabiliser les régions au-delà de la capitale Bangui.
Au Burkina Faso, le Premier ministre Isaac Zida a pu sauver son fauteuil à l'issue d'âpres négociations. La garde présidentielle burkinabé a renoncé jeudi à réclamer la démission d'Isaac Zida à la tête du gouvernement. En revanche, le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, aurait obtenu la nomination de deux des leurs à des postes clés. Le compromis est destiné à clore la crise ouverte mercredi, la plus grave à laquelle ont été confrontées les autorités de transition mises en place après la chute de Blaise Compaoré, chassé du pouvoir à la fin octobre.
République démocratique du Congo, les autorités ne remplaceront pas les deux généraux accusés de violation des droits de l'homme. Jugés indésirables par la mission onusienne en RDC, ils ont été chargés de lutter contre les rebelles hutus rwandais des FDLR. La MONUSCO menace donc de retirer son soutien à l'opération, mais pour le gouvernement congolais, il faut faire l'objet d'une condamnation par la justice militaire pour être écarté du commandement. C'est ce qu'indique l'AFP.
Bilan des manifestations contre la loi électorale toujours en RDC le mois dernier. 27 personnes ont été tuées, estime le gouvernement. On compte 23 morts à Kinshasa seulement et 4 à Goma, dont 3 enfants. Deux policiers figurent parmi les victimes. En revanche, la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme et Human Rights Watch font état d'une quarantaine de morts.
Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme au sujet de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Les déplacements dans les trois pays les plus touchés seront difficiles avec l'arrivée des pluies dans 2 mois, ce qui compliquera la lutte contre le virus. Le point avec Timothée Donangmaï.
Notant les progrès obtenus par les équipes sanitaires sur le terrain, l'OMS avertit que l'épidémie est loin d'être contenue et continue d'être une grave menace. David Nabarro, l'émissaire spécial du secrétaire général de l'ONU pour la lutte contre l'Ebola, a appelé les populations des trois pays concernés à demeurer sur leur garde. Malgré la diminution du nombre total des cas, beaucoup reste à faire pour parvenir à l'objectif zéro cas, a-t-il dit, faisant remarquer que l'OMS a dénombré 124 nouveaux cas confirmés la semaine passée, soit 25 de plus que la semaine précédente.
There will always be volatility.
La situation sera toujours volatile. Les chiffres augmenteront et diminueront, mais plus nous serons à même de détecter les cas et tracer les contacts, mieux nos résultats seront, a expliqué David Nabarro. Pour mener à bien cette mission, les Nations Unies ont besoin $1 milliard et tout de suite, a souligné le docteur Nabarro, ajoutant que les agences onusiennes sont anxieuses d'obtenir ces fonds à temps, question d'éviter une interruption dans la lutte contre l'Ebola.
En Angola, le Front de libération de l'enclave de Cabinda a annoncé son intention de déposer les armes, mais certains de ses combattants privilégient encore la lutte armée sur Ben Dorsil.
Dans une lettre datée du 4 février, citée par l'AFP, le chef historique du Front, Nzita Thiago, qui réside à Paris, dit agir dans l'intérêt de la paix, de la réconciliation et de la justice. Il lance un appel au président angolais José Eduardo dos Santos pour qu'il établisse une commission de travail sur les problèmes de l'enclave de Cabinda. Ce n'est pas la première tentative du genre de la part du mouvement séparatiste. Aucun suivi cependant du côté du gouvernement qui maintient une force militaire à Cabinda. Par ailleurs, une branche du FLEC, les forces armées de Cabinda, demeure active sur le terrain et pourrait ignorer la décision de Nzita Thiago. Ce groupe a mené des attaques sporadiques contre les soldats angolais, les plus récentes remontant au début de cette année. L'enclave de Cabinda, située entre les deux Congos, fournit à l'Angola 60% de son pétrole. Mais, comme le rappelle l'agence France-Presse, la majorité de ses 400 000 habitants vit dans la pauvreté.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Multiples raids de l'aviation jordanienne contre l'État islamique hier après la promesse du roi Abdallah de Jordanie de frapper fort le groupe militant suite au meurtre d'un pilote jordanien capturé par les djihadistes en Syrie en décembre. Pas d'informations sur les cibles visées, mais le ministre jordanien de la Défense a indiqué que c'était seulement le début de la campagne de représailles.
Les chefs d'État allemands et français sont arrivés à Kiev en Ukraine hier avec une nouvelle proposition de règlement du conflit dans ce pays pour tenter de mettre fin à la recrudescence des combats près de la frontière russe en Alberson.
La chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande se sont réunis à Kiev avec le président ukrainien Petro Porochenko. Aucun détail n'a filtré sur cette rencontre. Les deux dirigeants européens se sont ensuite envolés pour Moscou, où ils devraient présenter leur proposition de paix au président russe Vladimir Poutine aujourd'hui. Hier à Kiev, le secrétaire d'État américain John Kerry a accusé les séparatistes pro-russes et le Kremlin d'être conjointement responsables de l'escalade de la violence dans l'est de l'Ukraine, assurant que le président Poutine pourrait prendre les décisions qui permettraient de mettre fin à ce conflit. Après des pourparlers avec le président ukrainien, John Kerry a indiqué « Nous voulons une résolution diplomatique ». Mais nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les chars qui franchissent la frontière russe pour entrer en Ukraine. À de nombreuses reprises, Moscou a nié toute implication directe dans les combats qui ont fait plus de 5 400 morts en 10 mois.
Crise de la dette grecque, pas de progrès hier lors des consultations à Berlin entre les ministres des Finances de la Grèce et de l'Allemagne. Le gouvernement allemand maintient son opposition à une restructuration de la dette grecque. La veille, la Banque centrale européenne avait annoncé son intention de ne plus accepter des bons du trésor grec comme garantie dans ses prêts à des banques commerciales.
Au moins 2 compagnies charter vont effectuer la liaison New York-Cuba à partir de mars. L'AFP qui rapporte l'information affirme que Cuba Travel Service et Marazolo proposeront toutes les deux un vol hebdomadaire le mardi entre les aéroports John Kennedy International à New York et José Marti à la Havane. En novembre, le président Barack Obama et le dirigeant cubain Raúl Castro avaient fait une annonce surprise de leur plan pour normaliser les relations. Et tout de suite, le journal de la Coupe d'Afrique des Nations avec Nicolas Pinon.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de la CAN sur VOA Afrique. Qualification méritée pour le Ghana et honte sur les supporters équato-guinéens. Le Ghana rejoint donc la Côte d'Ivoire pour une finale 100% ouest-africaine dimanche à Bata. Les Black Stars n'ont pas tremblé et su maîtriser leurs nerfs durant une partie sous haute tension. Jordan Ayew ouvre le score sur pénalty juste avant la mi-temps et Wakaso donne un autre avantage aux Ghanéens qui regagnent les vestiaires avec deux buts d'avance. À ce moment, les premiers projectiles volent des tribunes de la part des supporters équato-guinéens mécontents. Le match reprend et André Ayew, l'autre frère, inscrit lui aussi son but. 3-0 pour les Black Stars, c'en est trop pour les supporters équato-guinéens. Les projectiles s'abattent à nouveau sur la pelouse et des incidents éclatent avec les supporters ghanéens qui ont fini sur la pelouse, tout simplement invraisemblable. Le match a pu reprendre après 30 minutes d'interruption, mais les choses en restent là. Victoire 3-0 du Ghana. Retour sur cette qualification avec Jules Valentin Ngoué.
Bonjour. Après sa très controversée victoire face à la Tunisie, en quart de finale de la CAN, le Zaran national de Guinée équatoriale était particulièrement attendu pour sa prochaine sortie en demi-finale contre le Ghana. Non pas la prestation de l'équipe, qui contre toute attente, s'est incontestablement mise au niveau de la compétition, mais la polémique tournait surtout autour de l'arbitrage jugé partial, au point d'évoquer la thèse du complot ou encore de la pression attendue du public. Sur le terrain, la Guinée a fait illusion une demi-heure durant, pour ensuite céder brutalement en fin de première mi-temps sur un pénalty consécutif à une sortie mal négociée du courageux portier Philippe Ovono et une contre-attaque assassine conclue par le remiant Moubarak Wakaso. La messe était donc dite, le troisième but d'Ayew au milieu de la seconde mi-temps sera anecdotique. Si l'arbitrage a été parfait, c'est dans les tribunes que l'inacceptable est arrivé cette fois-ci. Avec l'envahissement dangereux de la piste et la réaction d'un public déçu à 10 minutes de la fin de la rencontre. Cette scène d'un autre âge rétrograde considérablement la note de la Guinée, jusque-là encensée pour la réussite de l'organisation. À elle de redresser la barre dans les matchs suivants, afin de regagner la reconnaissance de tout un continent qui lui accorde le mérite d'avoir sauvé son honneur menacé. À bientôt.
Aucun match à suivre ce vendredi, mais dès samedi, ce sera la petite finale, le match pour la troisième place, qui opposera donc les demi-finalistes malheureux, les Équato-Guinéens face aux Congolais. Comment l'équipe de la RDC a pu se remobiliser avant ce match ? La réponse avec ce reportage sur place de Thierry Kambundi.
Déçus par leur élimination en demi-finale, les Léopards de la République démocratique du Congo courent désormais derrière la médaille de bronze. Mais il va falloir que Jean-Florent Ibenge, leur sélectionneur, trouve des mots justes pour remobiliser ses troupes avant la petite finale de ce samedi.
Déjà, ce sont des compétiteurs, donc chaque fois qu'on rentre sur le terrain, c'est pour gagner. Déjà là, on va les mobiliser, on est abattu après une défaite. Et c'est ce qui m'intéresse, ce qui me fait plaisir, parce que être déçu après avoir été battu contre la Côte d'Ivoire, ça montre quand même que cette équipe a de la volonté, elle n'a pas froid aux yeux.
Avant de quitter Bata pour Malabo ce jeudi 5 février, l'attaquant congolais Cédric Mabouati nous a rappelé l'importance de ce match qui devrait, selon lui, sanctionner une CAN réussie.
Je sais que tout le monde et toute l'équipe on est bâti, mais c'est le foot. Hein. Maintenant, on doit passer le match de samedi. C'est un match très important pour nous aussi, pour arriver même à la troisième position, à prendre la médaille. Et on va essayer de faire ça bien. Moralement, on est touché, mais tous les matchs, c'est très important à jouer. C'est un match de la CAN. Doit aller gagner.
Les Léopards seront tout de même privés de Dieu merci Mbokani, leur meilleur buteur de cette CAN avec 3 réalisations, blessé en demi-finale contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Bata, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Merci Thierry, et la grande finale ce sera dimanche, finale de la 30e Coupe d'Afrique des Nations entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ainsi s'achève ce journal de la CAN. Prochain point sur la compétition, ce soir dans Le Monde Aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagassi Courant, votre compagnie, place maintenant au dossier du jour. La contre-attaque de Boko Haram sur la ville camerounaise de Fotokol a été meurtrière. Elle est intervenue au lendemain de l'offensive tchadienne pour déloger les djihadistes de la ville de Gambourou, une ville voisine au Nigeria. L'armée tchadienne dit avoir tué au moins 200 combattants islamistes. Une bonne partie de la population a fui dans la brousse. Ceux qui sont restés, eux, vivent dans la peur et la terreur. Des cadavres sont encore visibles dans plusieurs endroits de la ville. Pour un témoignage, Idriss Fall a joint à Fotokol un policier à la retraite. Il s'appelle Mahamat Geime.
Il y a presque 800 personnes. Ils sont morts. Presque 800 personnes, 800.
Pas 80, vous dites 800 morts.
Il y a 800, il y a beaucoup. Bon, il y a 100 citoyens qui sont morts en ville. Il y a 13 armées du Tchad. Il y a 5 armées camerounaises.
Est-ce qu'on les a enterrés?
Non, pas encore, pas encore. Ils ne sont pas enterrés. C'est à côté de la ville de Fotokol. Il y a à peine 2 km, 1 km et demi comme ça.
Et les corps sont dans les rues?
Ouais, c'est pas enterré, c'est pas enterré.
Quelle est l'atmosphère aujourd'hui à Fotokol?
La vie est dure. Les gens sont rentrés en bourse, mais ils sont rentrés encore. Ils ont replié. Et juste là, il y a certains qui dorment en bourse.
La grande mosquée a été brûlée?
Ouais, il y a des mosquées qui... On a tué les gens là, dans les mosquées. C'est à peine heure de la prière, 5h39. Bon, ils sont entrés, ils ont trouvé des gens dans les mosquées, on les a arrosés après la prière. Dès qu'ils sont sortis, on les a arrosés.
Et on nous dit qu'il y a des personnes qui ont été égorgées.
Bon, quand ils sont entrés en ville, on n'a pas tiré, ils n'ont pas tiré. Ils ont dit qu'il ne faut pas qu'on tire. Ils ont d'abord les gens de la mosquée. Après les gens de la mosquée, on va commencer à tirer les dires, c'est ce qu'ils ont fait.
Et maintenant, est-ce que les soldats camerounais sont dans la ville, à Fotokol?
Tout le monde est sorti. Il y a le sous-préfet qui est parti en réunion à Maroua.
Voilà, c'était Mahamat Geime, policier à la retraite à Fotokol, dans l'extrême nord du Cameroun. Et pendant ce temps, à Yaoundé, la capitale camerounaise abrite depuis hier une réunion sur le déploiement d'une force africaine de 7500 hommes pour lutter contre Boko Haram. Pendant 3 jours, des dizaines d'experts africains et occidentaux vont donc discuter des modalités de la mise en place de cette force. Quelle sera son efficacité face à la puissance de feu des djihadistes nigériens? Idriss Fall a joint Gibaï Gatama, il est directeur du journal L'œil du Sahel.
Si ces 7500 hommes sont des combattants qui vont passer à l'offensive et qui ne vont pas rester sur la défensive comme l'ont dit l'armée nigériane et l'armée camerounaise pendant un certain temps, je pense qu'on peut évoluer sur le plan militaire. S'ils ont la même ténacité que les militaires tchadiens, on peut avoir des résultats, mais sinon, je crains qu'on ait des forces qui soient stationnées et qui n'apportent pas de grands résultats.
En fait, quels sont les pays qui pourraient contribuer et pouvoir aider à changer la donne? Parce qu'on a vu ce qui s'est passé au Mali.
Les pays sont quasiment en difficulté sur le plan militaire. C'est un problème de mise à niveau des armées de la sous-région qui ont été bâties beaucoup plus pour tenir en haleine la population que pour faire une guerre, et encore mieux pour résister à une guerre asymétrique comme l'impose Boko Haram. Je pense que dans la sous-région, en dehors des armées camerounaises, italiennes et nigériennes, je sens remettre en doute la valeur des armées de tel ou tel autre pays.
Tout ceci, ça coûte de l'argent. L'argent viendrait d'où?
Si la communauté internationale n'aide pas, il va de soi que cette force sera sur le papier et ne va pas se répercuter sur le terrain. Mais dans quelles conditions cette force intervient? Il faut bien voir que là, il y a une poussée, certes, de l'armée tchadienne dans le Borno State, mais il faut que cette armée tchadienne soit épaulée par d'autres armées qui ont également la même baraka, qui disposent de la même motivation, qui disposent des matériels adéquats, qui soient soutenus par un renseignement aérien et terrestre. Et ça va prendre du temps pour qu'on puisse mettre tout ça en place. D'ici à 2 mois, l'armée tchadienne devra encore faire le travail à l'intérieur du Nigeria et que l'armée camerounaise puisse s'assurer que la pression de l'armée tchadienne à l'intérieur du Nigeria n'oblige pas les combattants de Boko Haram à s'infiltrer au Cameroun.
Mais on a vu ce qui s'est passé donc à Fotokol.
Bien sûr, l'armée tchadienne a avancé beaucoup trop vite. Au beaucoup trop vite et les arrières n'avaient pas été sécurisées. L'armée tchadienne a traversé Gambaru pour aller en Gala et elle est passée. Alors que les combattants de Boko Haram s'étaient planqués, les Camerounais ont levé leur dispositif sur le pont du fleuve El Bayit qui sépare les deux pays et qui était jusqu'ici sur le verrou stratégique de l'armée camerounaise contre Boko Haram. À partir du moment où ce dispositif a été levé et que les gens se sont dit, puisque les Tchadiens avancent derrière eux, il n'y a rien, il n'y a plus que de ratissage à faire, c'est arrivé ainsi.
Voilà, c'était Gibaï Gatama, directeur du journal L'Œil du Sahel.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Au Burkina Faso, dénouement hier de la crise provoquée par la grogne des soldats du RSP, le régiment de sécurité présidentielle, ce corps d'élite réclamait entre autres le départ du Premier ministre Isaac Zida qui avait promis la dissolution du RSP. Au finish, pas de départ du Premier ministre ou de dissolution du RSP, mais la question reste entière pour une analyse de cette première crise post-Compaoré. Timothée Donangmaï a joint à Ouagadougou. Dani Aïda, il est expert en gouvernance pour Africa Label, firme de conseil en développement international.
C'est vrai que le Premier ministre avait, sur quand même la revendication de la société civile notamment, fait la promesse comme quoi le RSP allait être dissous. Les militaires membres de ce corps réclamaient le départ du Premier ministre. Mais ils avaient d'autres réclamations, notamment que les récentes nominations en leur et notamment il y a un certain nombre d'officiers supérieurs de RSP qui ont été nommés dans d'autres corps, ce qui était considéré dans ce corps-là comme étant le début du démantèlement. Et donc, il au moins que ces nominations soient revues, donc ce qui est quand même un recul de la part de l'exécutif dans ce problème. Donc, ici à Ouaga, beaucoup d'observateurs considèrent que ce précédent qui risque d'être dangereux parce que visiblement, le gouvernement de transition a reculé face à ce corps-là qui est assez puissant, qui pendant longtemps a été le socle du régime de Blaise Compaoré. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent et ce dénouement semble être juste provisoire à mon avis.
Et certains d'ailleurs voient derrière cette situation des agissements de l'ancien régime. Dans quelle mesure cela risque de compromettre le processus en cours au Burkina?
Le processus a commencé juste il y a 3 mois. C'est le premier couac qui est assez sérieux. Évidemment, un régime aussi puissant que celui de Blaise Compaoré ne pouvait pas disparaître du jour au lendemain comme cela. Blaise Compaoré, quand même, il était capitaine quand il est arrivé au pouvoir. Et on sait également que le pouvoir était bâti quand même comme beaucoup d'autres régimes en Afrique sur les forces armées qui tenaient une place assez importante. Et le RSP, quand même, c'est un corps d'élite. Il y avait beaucoup de privilèges qui s'occupaient de beaucoup d'affaires. Et il faut admettre que décider comme ça de s'en prendre ce corps, évidemment, était un risque assez évident. Maintenant que la question est sur la table, la société civile insiste et insiste que le RSP soit dissous. Les politiques se concertent, on a les élections en vue et je crois que définitivement il n'y a plus de doute pour les observateurs et pour les acteurs et les citoyens burkinabés que le RSP constitue le nœud du problème pour la démocratie réelle et pour une gouvernance civile au Burkina Faso. Et il faut quand même d'un jour à l'autre qu'une solution durable soit trouvée à ce problème.
Voilà, c'était Dani Aïda, expert en gouvernance pour Africa Label, firme de conseil en développement international. Il a été joint à Ouagadougou.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
La majorité des Africains continuent d'acheter leur nourriture dans des marchés en plein air chaotiques qui feraient frémir nombre de gens soucieux des pratiques hygiéniques. Mais une nouvelle étude de l'International Livestock Research Institute basée à Nairobi devrait les rassurer. Les explications de Michel Joseph.
L'International Livestock Research Institute, en français l'Institut international de recherche sur le bétail, a fait une découverte surprenante. Nombre de marchandises trouvées sur ces marchés informels sont tout aussi sûres ou fraîches que les produits écoulés
par les supermarchés de style occidental qui se répandent à travers le continent africain. Jusqu'à 95% de la nourriture vendue en Afrique transite par des marchés en plein air. Mais un nombre croissant de supermarchés leur font concurrence, attirant les acheteurs dans leurs belles allées brillamment éclairées pour leurs produits alimentaires sous emballage en plastique. L'Institut international de recherche sur l'élevage s'est penché sur des marchés informels dans 8 pays africains pour découvrir que, s'agissant de la sécurité alimentaire et de la fraîcheur des produits, les apparences sont plutôt trompeuses.
Juste parce qu'un produit porte une étiquette ou qu'il est présenté dans un environnement lumineux, cela ne signifie pas nécessairement qu'on peut l'acheter en toute sécurité.
Elle évoque des cas à Nairobi où des vendeurs informels ont insisté sur le fait qu'ils prennent des précautions sanitaires avant de vendre leurs marchandises.
Je dois m'assurer que l'eau bouillie et la personne qui procède à la traite se lavent les mains avant de le faire.
Les vendeurs des marchés en plein air prennent fréquemment d'autres mesures.
Quand je reçois le lait, je l'ai bouilli d'abord pour m'assurer de sa fraîcheur. On voit bien qu'il n'y a pas de supermarché, donc. Sans les marchés informels, où est-ce que les gens pourraient se ravitailler?
Côté acheteur, on fait remarquer que les prix des denrées vendues dans les marchés en plein air sont inférieurs à ceux pratiqués par les supermarchés. Et puis, les marchandises sont plus fraîches. À noter qu'aux États-Unis, les marchés en plein air ont repris leur essor au cours des 20 dernières années, un nombre croissant d'Américains privilégiant les produits locaux jugés plus naturels.
La Minute Éco, l'actualité économique en Afrique et ailleurs, avec nous ce matin, Jean-Roger Bion. Bonjour Jean-Roger.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
Une fondation pour réinventer les liens économiques entre l'Afrique et la France.
L'architecte de cette fondation est le franco-béninois Lionel Zinsou, qui ambitionne de dépoussiérer les relations économiques entre la France et le continent africain. La fondation sera portée ce vendredi sur les fonds baptismaux. Elle se veut un espace de rencontre et d'échange entre acteurs privés et publics en Afrique et en France, selon son concepteur.
Le FMI offre 100 millions de dollars d'allègement de dettes aux pays frappés par Ebola.
Les bénéficiaires de cet allègement sont la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, les trois pays d'Afrique de l'Ouest affectés par l'épidémie d'Ebola, afin de réduire le fardeau de leurs dettes vis-à-vis de l'institution. Le FMI a par ailleurs ajouté qu'il pourrait approuver un prêt à taux zéro de 160 millions de dollars à ces pays qui s'ajouteraient ainsi aux 130 millions déjà déboursés en septembre dernier.
Ça correspond à peu près à 40% des besoins budgétaires du Sierra Leone, du Libéria et de la Guinée, mais on espère que d'autres pays, d'autres donateurs vont également se rallier à cet effort que le Fonds monétaire international a décidé aujourd'hui.
Christine Lagarde, directrice générale du FMI.
La zone euro en déflation en 2015, selon la Commission européenne.
Bruxelles s'attend à une baisse des prix de 0,1% en moyenne sur l'année. La tendance devrait s'inverser en 2016 grâce à des mesures de la Banque centrale européenne pour injecter des liquidités dans l'économie. La déflation est caractérisée par une baisse des prix sur une période prolongée qui entraîne des risques pour la croissance en pesant sur les salaires et la consommation.
Merci Jean-Roger. C'était la Minute Éco.
Salut les amis, ici Roger Mountou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes, soca, zouk, reggae, salsa et vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Mountou, la voix de l'Amérique et vos SMS au 225-58-92-85-40. Participez en direct, ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA à Afrique. Et j'en profite pour souhaiter joyeux anniversaire à Madame Maïga Sanata Diara à Amdalaï Bamako. Peace Africa!
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Anne Alberson était à la production et John Ellison à la console technique. Un grand merci à toute la rédaction de VOA Afrique. C'était Bagassi Koura au micro. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.